Je vais vous parler d'un autre livre, hein, après ce livre sur le biais politique, celui de Daniel Mendelsohn, qui est notre invité ce matin. Une odyssée, un père, un fils, une épopée. Daniel Mendelsohn, le public français l'a découvert avec Les Disparus, livre qui avait obtenu le prix Médicis étranger 2007, où vous partiez à la rencontre, Daniel, d'une partie de votre famille, de 6 membres de votre famille qui ont été tués durant la Shoah. On vous retrouve donc dans Une odyssée, un père, un fils, une épopée, où vous racontez ce cours que vous avez donné sur Homère à l'université, puisque vous êtes universitaire, vous êtes aussi critique et écrivain. Vous racontez ce cours avec une personne en plus dans la salle, votre père, qui était venu assister à ce cours. Il faut quand même que je vous fasse réagir à ce qu'on vient d'entendre sur le livre politique. Moi, j'ai essayé de lire le livre qu'Hillary Clinton a publié à l'issue de cette campagne. J'ai pas réussi, je vais vous dire la vérité. Vous y arrivez un peu ?
Non. Non, jamais. Si je voulais entendre les histoires de mentors, j'ai l'Odyssée à lire. C'est beaucoup plus amusant. Hein.
Vous avez dit tout à l'heure qu'il y avait dans Ulysse et dans l'Odyssée une question avant tout d'identité. Et vous tracez ces différentes identités dans l'Odyssée. Vous racontez tout d'abord comment vous avez été conduit à étudier la culture grecque, comment ces Grecs avaient en quelque sorte une prééminence sur les Juifs, puisque lorsque vous étiez avant votre bar mitzvah, lorsque vous avez commencé à étudier la Bible, vous êtes rendu compte que les Juifs étaient un peuple certes sympathique, mais qui avait toujours le dessous par rapport aux Grecs ou aux autres peuples qui leur faisaient la guerre et généralement triomphaient d'eux. Et donc, vous avez été pris d'amour pour les vainqueurs, ce qui est normal. Hein, tous les petits garçons, les petites filles ont envie d'être du côté des vainqueurs. Vous avez donc découvert par ce biais-là la culture grecque, Daniel Mendelsohn.
Oui, mais il faut dire que c'était, pour moi, c'était une question encore plus de la sexualité. J'étais un ado gay et j'ai trouvé chez les Grecs une culture qui donnait un modèle de vivre qui était très sympa pour moi. Par contre, chez les Hébreux, c'était...
C'était moins gay.
Ouais, beaucoup moins. Selon ce qu'on en sait. Hein.
Ce qu'il raconte.
La vie secrète de Moïse. Hein.
Oui.
Non, mais pour moi, personnellement, j'imagine, c'est difficile à reconstruire, mais j'imagine que c'était le fait que chez les Grecs, on pouvait être homosexuel sans honte. Et donc, j'étais très attiré par les textes grecs quand j'étais ado. Hein.
Mais je ne suis pas spécialiste de l'Odyssée, c'est vous d'ailleurs le spécialiste de l'Odyssée, Daniel Mendelsohn. Mais moi, j'ai l'impression qu'il y a surtout des histoires hétéros chez Homère.
Non, on se demande ce qui c'était le cas entre Achille et Patrocle. C'est une question qui composait déjà dans l'ère antique. Non, c'est pas exclusivement hétéro dans Homère. Pour la plupart, oui. C'était, comme vous savez, dans l'Iliade, il y a une scène incroyablement tendre entre Hector et sa femme, une des plus connues scènes de la littérature grecque. Mais en général, je voulais dire, les mythes, etc. Tout ça m'attirait beaucoup, car j'y voyais une occasion d'être où on pouvait être ouvert sur la question de sexualité qui n'existait pas dans la culture hébreu.
Comment vous expliquez ça ? Comment expliquer en quelque sorte les affinités électives entre la culture grecque et l'homosexualité ? Est-ce qu'il s'agit d'une parenthèse ? Est-ce que il y a vous qui étudiez la littérature grecque qui en avez fait votre existence, Daniel Mendelsohn ? Vous avez certainement une hypothèse à ce sujet.
C'est difficile. Je voudrais bien avoir une hypothèse valide sur ce sujet. C'est difficile à dire. Selon moi, c'est toujours une question intéressante pourquoi quelqu'un s'intéresse à un sujet, pas un autre. À mon avis, c'est une question de tempérament, surtout. C'est pas... À mon avis, ça n'a rien à voir avec le fait que je suis juif, je suis descendu d'une famille juive. C'était quelque chose, c'est quelque chose d'intérieur. C'est pas exactement pourquoi j'étais, à part ce que je viens de vous dire, mais c'est intéressant. Il y a, pour les juifs, une tradition d'études, il y a une tradition de faire les commentaires sur les textes, ça fait partie, une grande partie de la culture intellectuelle juive, peut-être, et aussi chez les Grecs. Donc, il y a un parallélisme entre les deux cultures, on peut le dire, oui.
Vous dites que vous êtes intéressé aux Grecs d'abord parce que ceux-ci vous semblaient plus ouverts sur l'homosexualité, mais dans une odyssée, vous racontez donc vos relations avec votre père, ah ouais. Des relations qui n'ont pas été aisées, un père assez sévère, très austère, ouais. Pas forcément partageur. Et pourtant, quand vous avez fait votre coming out, comme on dit en français, lorsque vous lui avez dit que vous étiez gay, pour le coup, il n'a émis aucun commentaire péjoratif.
Non, pas du tout. Et j'étais très touché par le fait qu'il a, en fait, il a réagi très tendrement envers moi. En ce moment, j'adore raconter l'histoire de mon coming out que j'ai fait à l'âge de 20 ans.
Bah, allez-y, racontez-la.
Et, ouais. Et j'avais préparé des discours pour mes parents. J'ai décidé à leur révéler tout et j'étais chez moi, c'était les vacances de Pâques 1980, et j'étais chez mes parents, et je leur ai dit, j'ai quelque chose à vous dire. Ils ont dit, OK, viens dans notre chambre. J'ai commencé à donner mes discours, et après 2 minutes, j'ai entendu du lit de mes parents, était sur le lit, les sons du ronflement de ma mère, et s'était endormie pendant le discours.
Donc ça n'intéressait pas beaucoup la révélation de votre homosexualité.
Oui, elle s'était endormie, et mon père a dit, moi, je sais quelque chose sur ce sujet. Et comme vous savez, après avoir lu mon livre, ce n'était qu'au moment qu'on était à bord de paquebot pour la croisière.
Oui, parce qu'il faut raconter aux auditeurs, pourquoi. Il faut dire aux auditeurs que cette odyssée dont vous étudiez le texte dans ce livre, Daniel Mandelson, ah, oui. Vous faites le cours à votre père et vous décidez, peu avant la disparition de votre papa, de l'emmener en croisière sur les lieux. De l'Odyssée.
Oui, oui. Et on était à bord le paquebot, et c'est le climax de mon récit. On peut dire que mon père a finalement, après 31, 32 ans, révélé pourquoi il pouvait être tellement tendre envers moi pour mon coming out. Il avait eu une expérience, il n'était pas gay, mon père, mais il avait un ami et il a été accoutumé au fait qu'on pouvait être gay, c'était pas trop grave. Et j'étais tellement touché par cette révélation. Mais au moment du coming out, il a dit seulement, je sais quelque chose sur son sujet et c'est OK. Et je lui dois beaucoup à cause de cela.
Et il y a aussi beaucoup de réflexions finalement sur des identités multiples, ouais. Sur le fait que vous venez d'une famille juive, vous avez appris l'hébreu, vous avez fait votre bar mitzvah, vous êtes à l'aise en hébreu. Et parallèlement, j'ai dit que vous étiez à l'aise, hein, donc vous êtes obligé d'assumer maintenant. Vous êtes aussi à l'aise en grec, dans une autre culture, vous êtes américain, vous êtes gay. Comment vous tricotez, comment vous composez ces différentes cultures, Daniel Mandelson?
Mais vous pouvez dire pourquoi, pour moi, la question d'identité était tellement importante. Comme vous venez de dire, j'étais juif dans une culture qui, pour la plupart, n'est pas juif. J'étais homosexuel. Je m'intéressais à des sujets assez... est-ce que vous dites rarifié?
Oui, qui sont des sujets savants, des sujets qui n'intéressent pas tout le monde, même si votre papa était intéressé par ça.
J'ai l'impression que les enfants, les ados qui se sentent à l'extérieur du mainstream, de la
culture majoritaire.
Oui. Ils cherchent des modèles, ils s'intéressent à la question de l'identité, car ils sentent que leurs identités sont différentes, et ça peut être troublant aussi quand vous êtes jeune. Et comme ça, je m'intéressais beaucoup, comme les Grecs, qui étaient obsédés par la question d'identité. Les plus grandes œuvres de la littérature grecque ont pour sujet l'identité, l'Œdipe de Sophocle, l'Odyssée. Donc, je ne sais pas exactement pourquoi, mais c'est certain que cette question, ce que c'est un homme, ce que c'est être un être humain, c'était le grain de toute la culture grecque.
Alors, quand vous vous intéressez à la culture grecque, vous avez donc découvert, vous venez de nous le dire, une manière réjouissante pour vous de vivre, par exemple, la sexualité, de vivre également la culture, Daniel Mandelson. Est-ce que vous parleriez de miracle grec? Je sais que l'expression ne vous plaît pas tout à fait, vous allez nous expliquer pourquoi.
Non, j'ai éclaté de rire la première fois que vous avez dit ça, non, car je me souviens d'un livre que j'ai beaucoup lu quand j'étais ado et déjà intéressé au grec qui s'appelait Le Miracle grec. Et, oui, on peut peut-être parler d'un miracle, mais en fin des comptes, il n'y a pas de miracle. Ces choses arrivent pour des raisons certaines, en fait. On ne sait pas jamais, mais c'est une question vraiment intéressante, pourquoi dans certaines cultures, il y a des moments, Florence pendant la Renaissance par exemple, Athènes dans l'époque de Péricle.
Périclès,
oui. C'est intéressant, il y a des forces qui viennent ensemble, économiques, esthétiques, culturelles, sociales, et tout d'un coup, il y a ce miracle. Quand on parle du miracle grec, on parle d'habitude d'Athènes pendant le 5e siècle
avant Jésus-Christ.
Oui. Et oui, on peut dire que c'est un miracle. Les œuvres qu'on a produites pendant moins que 100 ans, toute la tragédie grecque, etc., l'architecture, le Parthénon, etc., apparence d'un miracle, sans doute.
Et ma question d'après, vous pouvez l'imaginer, l'autre côté de votre culture, le versant juif, il y a un collègue à vous, un universitaire américain, Yuri Zletkin, qui a écrit un livre qui s'appelle Le siècle juif, qui explique que le 20e siècle a été un siècle marqué par la question juive sous l'angle tragique, sous un angle également intellectuel. Lorsque vous étudiez le shtetl, cette communauté de juive primitive en Pologne, par exemple, en Ukraine, dans ces régions donc de l'Est, et que l'on voit finalement à la fois l'avidité de ces individus pour la culture, pour le livre, la manière dont ils ont réussi aux États-Unis. Votre papa, vous l'avez dit tout à l'heure, est autodidacte. Vous êtes un peu vache parce qu'il était mathématicien et c'était un universitaire lui aussi, même s'il n'a pas été jusqu'à la thèse. Donc, comment vous expliquez ça, Daniel Mandelson?
Moi, je dirais que c'est une question que je n'imagine pas que mes ancêtres dans le shtetl avaient tellement goût pour la culture. C'était des gens moyens, mes ancêtres étaient des bouchers. Pour moi, la question, c'est que dès qu'ils savaient qu'ils allaient immigrer en Amérique, il fallait absolument avoir une éducation. Et c'était, donc, je veux dire que pour eux, ce n'était pas une question de culture, d'être intéressé à la culture, même hébreu. C'était une question de saisir l'occasion d'avoir une éducation. L'intérêt qu'ils ont eu après ça, c'était le produit de l'éducation qu'ils ont eu.
En tout cas, il y a un certain nombre d'exemples d'alliances entre la culture juive et la ouais. culture étrangère. Je vais vous faire entendre Marguerite Duras. Marguerite Duras, parlant de Proust, parce que je sais que Proust est un écrivain extrêmement ouais. important pour vous.
Supposons qu'un homme n'ait lu qu'une seule œuvre, celle de Proust, on pourrait imaginer qu'il pourrait lui-même en passer à l'écriture à partir de cette œuvre. Il serait, pour ainsi dire, contaminé, illuminé, mais par lui-même, par sa propre existence, et par la puissance, la lucidité de son esprit, tout à coup. Il s'écrirait que de choses autour de moi, en moi, que je n'avais pas aperçues. C'est en cela que Proust nous est familier, et qu'il s'adresse surtout à tous les écrivains.
Daniel Mendelssohn, pourquoi Proust est-il si important pour vous ?
J'ai découvert Proust à l'âge de 20 ans et bah, vous pouvez dire après tout ce que je viens
mais non, mais
de dire.
C'est mais, vous que j'interview, mais, non, mais, je ne vais pas faire les réponses
mais
à votre
alors,
place.
C'est, un, c'est difficile à décrire. On pouvait s'identifier un peu avec lui, juif, homosexuel, c'était la première fois presque que j'ai lu dans un roman quelque chose sur des personnes homosexuelles. C'est un choc pour moi. Mais je ne veux pas attacher trop d'importance à ce côté. C'était surtout une question de style, de sensibilité, quelque chose que j'ai peut-être reconnu en lui ce que je viens de vous dire sur le sentiment d'être exclu de la société était très important, de ce que c'était quelqu'un qui observait les autres. Et cela m'a vraiment frappé pendant ma première lecture de Proust, le moi qui observe tout, mais qui ne participe pas trop. C'était fascinant pour moi, car je me sentais exactement comme ça à l'âge de 20 ans. J'étais toujours à l'extérieur, c'était mes amis qui avaient... ils étaient toujours... ils tombaient amoureux, moi non. Et comme ça, en plus, j'ai trouvé un personnage qui parlait, j'imaginais qu'il parlait à moi, bien que la vie qu'il décrit n'avait rien en commun avec la vie que je menais moi-même, la société parisienne, tout ça, les aristos. C'était de science-fiction pour moi, un jeune homme juif de Long Island à New York, à l'université de Virginia. Mais néanmoins, j'ai reconnu quelque chose qui parlait à moi très fort.
Et lorsque vous comparez le héros chez Homère, un héros qui agit quand même, je ne dis pas que Ulysse n'a pas de psychologie, mais enfin, ce que l'on retient de lui, ce sont un certain nombre d'actes. Tandis que chez Proust, le héros proustien, lui, il a avant tout une intériorité. Il n'a quasiment que de la psychologie. Il n'y a pas vraiment d'épopée, pour reprendre le terme du sous-titre de votre livre, ouais. Daniel Mendelssohn. Quelle comparaison vous faites entre ce texte grec qui est une matrice de la fiction et de l'autre côté, le texte proustien ?
Vos questions sont tellement intéressantes. C'est moi qui je veux vous interviewer sur ce programme.
Gentil, mais là, en l'occurrence, c'est vous.
C'est comme mes examens oraux à l'université. C'est à 7 heures du matin,
il est 8h41.
C'est intéressant, mais je dirais que, évidemment, Ulysse est un homme d'action. C'est le contraire du héros de Proust, évidemment, mais... Toujours dans l'Odyssée, il y a une question d'identité. On sent qu'il y a ce sentiment d'intériorité dans Ulysse. Après tout, être reconnu veut dire qu'il y a un intérieur qui peut être reconnu, bien qu'on ait changé beaucoup dans le cours du temps.
Et puis, tandis que mes camarades s'installent, je vais vous les présenter. D'ailleurs, Mathilde Serrel pour le biais culturel, Alexandre Devecchio est du Figaro et mon camarade Aurélien Bélanger qui va vous livrer sa conclusion définitive sur l'alcool aujourd'hui. Je voulais vous faire entendre, Daniel Mendelssohn, un extrait d'un film parce que, bon, quand même, on va terminer sur la culture grecque telle que la voit Hollywood aujourd'hui. Troy.
Nous envoyons la plus grande flotte qui ait jamais navigué. Il nous faut le plus grand des guerriers. Achille est impossible à contrôler.
Prends garde, roi des rois. Tu devras d'abord être vainqueur.
Je ne te demanderai pas de combattre pour moi.
Tu l'as déjà fait. Jamais un fils de Troie ne voudra se soumettre à un roi étranger.
Alors chaque fils de Troie devra mourir.
Voilà, on voulait quand même vous offrir Troy parce que il faut dire aux auditeurs, Daniel Mendelssohn, que vous n'êtes pas seulement universitaire et écrivain, vous êtes aussi critique et vous publiez dans le New Yorker, la New York Review of Books. Alors Troy, qu'est-ce que ça vous a fait?
J'ai fait une critique.
Ben, je sais. Je ne croyais quand même pas que c'est gratuit.
Non, c'était trop. Le plus intéressant pour moi, c'était la manière de narration dans le film, est l'opposé de ce que recommande Aristote. C'est-à-dire, Aristote, dans les poétiques, il dit que jamais, vous ne devez jamais construire une narration de A à Z. Et c'est exactement ce qui se passe entre... Il commence avec Hélène et Paris, et il termine avec la chute de Troie. Et c'était incroyablement ennuyant, ce film, j'ai trouvé. Incroyablement.
Ah. Parce que ce qui est, on va terminer là-dessus, Daniel Mendelssohn, vous insistez beaucoup dans vos livres, parce que c'est un thème qui traverse vos écrits, sur le côté circulaire de l'écriture et même de la réflexion.
Oui, mais c'est ça ce qu'Aristote recommande. Oui.
Il y a pas qu'Aristote, il y a aussi votre père et votre grand-père.
Oui, mais c'est une façon de narrer les histoires qui est naturellement orale. Quand vous racontez une histoire, vous vous arrêtez en vous souvenant de quelque chose, une arrière-histoire comme ça. C'est justement comme ça qu'on raconte des histoires. C'est naturel, c'est oral. Et donc, comme on sait, l'Iliade et l'Odyssée, c'était des compositions. Au début, ils étaient des compositions orales.
C'est un chant.
Oui.
Mathilde, vous allez continuer à chanter. Daniel Mendelssohn, vous restez avec nous. Une odyssée, un père, un fils, une épopée, c'est publié chez Flammarion. Et puis, Les disparus maintenant sont en poche. J'ai lu, le livre avait obtenu le prix Médicis étranger en 2007. Mathilde a souhaité vous proposer un procès un peu particulier. La fiction mérite-t-elle un procès? Puisque ce procès, Daniel Mendelssohn, vous êtes en France, il va avoir lieu ce week-end.